Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
C'était un marcheur, il ne tenait pas en place. Même dans un café, il se levait au bout de quelques secondes et faisait les 100 pas. C'était un insomniaque, c'était un angoissé, c'était un boulimique. Il travaillait tout le temps, critique de cinéma, réalisateur, écrivain. Jamais content de lui, il n'en revenait pas d'être lu, reconnu et aimé. Prix Nimier, prix Renaudot, prix Goncourt, François Weyerganse a été l'un des écrivains les plus récompensés. De lui, il savait parler avec férocité et humour. Le Pitre racontait son analyse avec Jacques Lacan et était étourdissant. Trois jours chez ma mère racontait comment un fils pétri de culpabilité se décide finalement à aller voir sa mère qui va avoir 90 ans. Il a un travail à finir. Sa mère lui déclare, je cite, « Au lieu d'envoyer des fax à tes dizaines d'amoureuses, tu devrais publier un livre, sinon les gens vont croire que tu es mort. » Fin de citation. Nous avons appris il y a quelques heures la mort de François Weyerganse. Nous avons décidé de rediffuser une émission avec lui enregistrée le 8 juin 2012 à l'occasion de son dernier roman intitulé « Royal Romance ». Et comme chaque soir, en hommage à François Weyerganse, nous allons commencer en musique avec la magnifique chanson d'Arnaud, « Les yeux de ma mère ».
m'allumes au cœur, que chose de n'emmerde. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
François Villargance, dans votre livre « Je suis écrivain » qui a été publié en 1989, vous dites à propos d'un personnage qui s'appelle Max, qui a 42 ans, qui vous ressemble énormément, vous dites à son propos « Son nouveau livre sera bientôt en librairie et il met du temps à écrire. Il faut dire qu'il passe plus de temps à se promener qu'à rédiger. D'ailleurs, s'il ne se promenait pas, comment ferait-il pour renouveler son stock d'idées ? Le roman de lui qu'il préfère sera toujours le prochain. Est-ce vrai, François Villargance ?
C'est la vie de ce garçon que j'avais un peu oublié, Marc Strauss, mon Dieu. C'est un écrivain que j'envoie au Japon,
oui.
Qui préfère... Donc c'est assez juste, c'est par rapport à la psychologie de
vous
de
l'envoyez Rose. Effectivement au Japon, oui, avec oui. Son amoureuse.
Oui, oui, oui. L'histoire de... Non pas d'avoir du mal à écrire, mais de d'écrire quand on en a envie et lentement, c'est assez important parce que ça veut dire qu'on réfléchit à ce qu'on fait, quoi. Et que quand on publie des livres, ce qui compte, c'est vraiment d'essayer de dire des choses qui n'ont pas été dites. À partir de thèmes très très connus, mais on essaie de dire ce qui n'a pas encore été dit. Et donc ça, c'est difficile, on prend des risques. Et voilà, donc du coup, ça prend du temps et ça peut aussi faire un peu peur par moment. Sans compter un deuxième thème qui m'obsède souvent, c'est que j'aime pas finir. Mais finir, ça veut dire que c'est la mort, la fin. Quand un film se termine, même le mot fin, c'est pas agréable à lire sur un écran.
Vous savez que Marguerite Duras, quand elle publiait un livre, elle allait chercher les premiers exemplaires dans les librairies pour pouvoir les ramasser chez elle, puis ensuite elle les corrigeait et elle les amenait chez son éditeur en lui disant « Non, il faut pas que le livre soit publié tel quel parce que j'ai encore quelques corrections à apporter. » Est-ce que vous êtes du même genre ?
Oui, et maintenant ce qu'on a de bien, c'est quand les livres sortent dans les collections dites de poche, il y a une nouvelle composition typographique, donc on peut tout relire, on peut corriger si on veut. Alors, moi, je ne m'en prive pas.
Oui, mais vous n'allez pas quand même jusqu'à vous introduire dans les librairies pour faire en sorte que le livre ne sorte jamais parce qu'il est, il sera toujours et par définition inachevé et imparfait.
Oui,
c'est
oui,
peut-être
bien sûr.
Ça qui caractérise votre écriture.
Ben, ni inachevé, ni imparfait, je suis pas d'accord du tout. Je trouve mes livres achevés et proches de la perfection. Mais c'est simplement qu'on sait que ce sera jamais parfait, bien sûr, au départ. Mais alors,
en tout cas, c'est pas l'impression que vous donnez à vos lecteurs, en ce qui concerne la description de vos personnages.
Oui, mais alors, on peut très bien charger les personnages de sentiments dont on se débarrasse, précisément, en leur mettant sur le dos. Et en plus, on grossit un peu le trait.
Vous êtes sûr que vous êtes content de vous, en tant qu'écrivain?
Eh bien, fondamentalement, non, sinon j'arrêterai d'écrire. Mais il y a un plaisir, c'est comme un alpiniste qui grimpe et qui tend vers un sommet qu'il n'atteindra peut-être pas, ou peut-être qu'il pourra même pas redescendre quand il y sera. Alors voilà, il y a plusieurs étages. Il y a d'abord se réveiller en se disant « je suis en train d'écrire un roman », c'est très agréable. Parce qu'au moment on se dit qu'on a quelque chose à faire dans la journée, qu'on sait à quoi s'occuper. Ensuite, il faut...
Se réveiller, ça veut dire que vous avez fait un rêve pendant la nuit qui vous a conduit vers un cheminement d'écriture, alors?
Non, j'étais beaucoup plus plat. Se réveiller simplement après avoir dormi, ouvrir les yeux, sortir du lit, et alors on se dit qu'est-ce qu'on va faire? On construit sa journée au moment où on se réveille. Donc il y a des gens qui savent qu'ils vont au bureau à 9h, moi je me dis j'ai un livre à écrire. Et ça c'est plutôt rassurant. Après il faut faire phrase après phrase. Un livre c'est quand même des phrases après des phrases. Hein. Et puis ces phrases forment des paragraphes, les paragraphes finissent par former des chapitres, et le chapitre suivant les autres, on a un livre. Et alors ça, c'est très difficile à faire, parce que la prose française est une des choses les plus difficiles à manipuler, me semble-t-il. J'ai fait des films, j'ai fait de la télévision, j'ai pas encore fait de la céramique, mais j'espère que ça viendra. Et la prose française est très rétive, elle est pleine de sonorités qu'il faut éviter, il faut faire très attention, il faut rester simple et modeste, et il n'y a rien de plus difficile que de rester simple et modeste, croyez-moi.
Et je crois aussi que votre écriture procède peut-être de l'écriture cinématographique et des sensations que vous avez perçues lors de votre enfance, que vous racontez admirablement d'ailleurs dans un de vos livres. Et nous allons écouter la voix de Robert Bresson qui va parler de son approche du cinéma au moment de la sortie de son film Pickpocket. C'est un extrait du Masque et la Plume du 15 janvier 1960. Un entretien avec François-Régis Bastide et Michel Pollack.
Il allait là, Bresson.
Il allait là, comme vous dites.
Je dis que si on me reproche, si c'est un reproche, d'abstraire, d'être abstrait, je dis ce n'est pas un reproche, c'est exactement ce que le cinéma doit faire, c'est-à-dire non pas montrer des choses dans leur liaison habituelle, dans leur rapport habituel de la vie, c'est de prendre des parties d'un certain tout, de les isoler et de les remettre ensemble dans un certain ordre. Donc, si je suis abstrait, si on a vu que j'étais abstrait, je m'en félicite, puisque c'est uniquement mon souci. C'est-à-dire ne pas prendre un personnage tout entier, si vous voulez, si c'est une personne, voir quel rapport a sa main avec son visage, sa main avec un objet qui est sur la table, et recréer des rapports qui sont des rapports à moi, qui forment ma vie personnelle à moi et ma vie intérieure. C'est-à-dire, non pas à montrer au public ce que je vois, mais à faire sentir au public ce que je sens, qui n'est pas du tout la même chose. Je veux arriver, je ne dis pas du tout que j'y arrive, mais je voudrais arriver, il y a un mot de Pascal, je crois, qui dit « chaque chose cache un mystère », arriver au mystère. Mais ce n'est pas par les moyens du théâtre, ce n'est pas possible. Si le film est un spectacle, il ne peut pas être un spectacle, puisque le spectacle demande la présence réelle, la présence en chair et en os. Enlever cette présence n'est plus un spectacle. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'une reproduction. Qu'est-ce que c'est que la reproduction d'un tableau? C'est une chose morte. Ce que j'essaie de faire, je ne dis pas du tout que j'y arrive, mais j'essaie par certains moyens, et c'est peut-être justement en tuant les interprètes d'une certaine mort, pour les faire renaître sur l'écran. Je voudrais que le spectateur assiste à une naissance.
Alors nous venons d'entendre la voix de Robert Bresson. Robert Bresson que vous aimez infiniment, à qui vous aviez consacré un film dans cette prestigieuse série cinéaste de notre temps qui s'intitulait « Bresson ni vu ni connu ».
Oui.
Et Bresson, c'est votre père qui vous l'a fait découvrir la première fois ?
Non, c'est ma mère. Mon père était critique de cinéma, ma mère était cinéphile. Et elle aimait beaucoup Bresson. Souvent que j'avais vu... En plus, c'était dans le milieu un peu catholique qui avait soutenu le journal Le Curé de Campagne, pas toujours pour les bonnes raisons. C'est que sur la fin de sa vie, Bresson débinait le journal Le Curé de Campagne, alors que quand on le revoit, le film est très solide. J'avais une conversation avec lui, il m'avait demandé d'accepter d'écrire un article dans le journal Le Monde sur une rétrospective Bresson qui avait lieu peu de temps avant sa mort. Et alors j'avais eu un coup de téléphone avec lui de 2 heures, où il débinait pratiquement tous ses films. Moi, je prenais des notes. On était au téléphone et je prenais des notes. Donc, il regrettait d'avoir mis trop de musique. Il dit, pourquoi est-ce que je vais mettre de la musique? Pourquoi j'ai employé mal à Cazares? Il disait du mal à Cazares. Il pensait qu'à son prochain film, en quoi il avait tout à fait raison, qui était son projet après la Genèse de la Bible. Et il sera mort d'abord, alors qu'il avait l'argent, il sera mort sans avoir pu le tourner. Et en plus, il disait, je voudrais filmer l'Arche de Noé. Il dit, c'est impossible. Il avait parlé avec plein de dresseurs d'animaux. Il est impensable que tous ces animaux ne se mangent pas entre eux. Alors qu'on a des siècles d'histoire de peinture où on voit sagement côte à côte une gazelle et un lion qui montent. Alors, c'était impossible. Il aura rêvé à ça jusqu'à la fin, la jeunesse. Il disait, on capturera de merveilleux oiseaux dans la jungle brésilienne et je filmerai leur libération et leur envol, des choses comme ça. C'est très intéressant, les films qui se font pas. J'aime beaucoup être au courant des projets des gens et de ce qu'ils n'auront pas fait, y compris de mes projets à moi.
Oui, on a l'impression d'ailleurs quand on vous lit que c'est un véritable miracle. Le dernier livre qui vient d'être publié s'intitule Royal Romance et on se dit effectivement, c'est un miracle, il a réussi à terminer son bouquin, il a accepté de le publier. Et c'est pour ça que je parlais de ce sentiment d'inachèvement qui constitue un des thèmes récurrents de votre œuvre d'écrivain François Weyergans et de cette collusion qu'il y a entre le monde du cinéma, le monde de l'émotion que peut procurer le cinéma et l'émotion que vous réussissez à procurer au lecteur quand vous écrivez des livres. Et ce monde du cinéma, il a été partie constituante de votre personnalité. Vous en parlez dans Franz et François, un livre absolument remarquable sur la relation avec votre père, et vous écrivez ceci. À Bruxelles, les séances avaient parfois lieu dans des vraies salles de cinéma avec des loges et des balcons, des salles où je savais que mon père demanderait d'essayer le micro avant l'arrivée du public. si les organisateurs étaient eux-mêmes des pères de famille, ils pensaient à me proposer un chocolat glacé ou un sachet de bonbons à la menthe. Mais le plus souvent, nous étions reçus dans des locaux attenants à une église. C'était alors un ciné-club paroissial. L'écran était plus petit. Il n'y avait pas le moindre bonbon à l'horizon. On était moins bien assis. Et les copies des films étaient en 16 mm, avec une interruption au beau milieu du film pour changer de bobine. Quand la projection reprenait, c'était aussi agréable que de se remettre encore une heure au lit quand on s'aperçoit qu'on s'est levé trop tôt. Et là, vraiment, voilà, on est au cœur de cette relation avec le cinéma.
Ça, c'est les ciné-clubs des années 50. Mais maintenant, de façon un peu plus abstraite, je pense que ce que j'ai appris au cinéma, mais j'ai aussi appris en m'intéressant à la chorégraphie, c'est de savoir monter. C'est-à-dire, c'est de faire du montage. Et mes livres sont montés. J'ai des séquences, j'écris des petites scènes. Ensuite, je regarde dans quel ordre je vais les mettre. J'écris même parfois que des phrases. Chaque phrase apportant son information sur tel ou tel personnage. Et aussi, je calcule est-ce que je le mets maintenant ou plus tard. Et par exemple, dans le dernier, la Royal Romance, dont je me souviens mieux parce qu'il est le plus frais, pour construire le personnage de Justine, qui est l'héroïne du livre, à quel moment est-ce que je disais qu'elle aimait regarder des films porno, pas trop vite pour qu'on la connaisse mieux, à quel moment est-ce que je disais qu'elle était passionnée par le fait d'enregistrer des cassettes audio pour correspondre avec l'homme qu'elle aime. Mais ça, c'est du montage. Et selon l'endroit où
enfin, c'est du montage et c'est de l'observation de la postmodernité aussi.
Oui, mais ça
l'observation. Votre personnage est si vraisemblable qu'on se dit qu'il y a peut-être beaucoup de filles comme ça.
Oui.
D'ailleurs, j'ai lu un article, pas plus tard que la semaine dernière, disant que des étudiantes de Sciences Po gagnaient très bien leur vie dans du porno.
Ah oui. Bon, ça, c'est pas nouveau non plus.
Ah bah, c'est pas le débouché normal des filles qui font des études.
Non, 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 mais aussi tout ce qui touche à la prostitution n'est jamais le débouché normal de qui que ce soit. Hein. Mais Justine, enfin, ça, il fallait la construire, mais un peu comme un scénariste. Finalement, le romancier intervient, que le romancier, il faut qu'il écrive. L'intérêt du scénario, c'est que ça peut être de la prose bâclée. Ce qui compte, c'est la construction. C'est pas du tout c'est un document provisoire. Un scénario, ça se jette une fois que les images sont tournées. Tandis que le roman, il faut à la fois avoir le récit, plus donner le plaisir esthétique que ne peut donner que la suggestion de la littérature, alors que le cinéma, lui, la donne par des images. Donc j'ai une théorie un peu sur laquelle je ferais mieux d'écrire un jour un article un peu fouillé, sur les différences entre cinéma et littérature. Je pense que le cinéma est plutôt un excitant. Il s'adresse au système nerveux directement, alors que la littérature s'adresse à une certaine partie du cerveau un peu plus complexe, quoi. Il me semble que le cinéma est plus proche du café, si vous voulez.
Et la littérature ?
La littérature serait plus proche de la peinture et de la musique. La musique surtout. Et ça, il faut que je développe ça. Je suis sûr que j'ai raison, mais ça fait un peu de la provoque aussi, quand on dit que le cinéma est plus proche du café, mais. Alors, plus ce genre de comparaison est complètement idiot, somme toute.
Parce que, oui, c'est bah écoutez, on va se boire un petit café, on va écouter oui. Un petit extrait de 8,5 de Fellini.
Tu sei la mamma, vero?
Quante lacrime, figlio mio, quante lacrime.
Papà, aspetta, non andare via. Abbiamo parlato così poco tra noi. Senti, papà, avevo tante domande da farti.
Ma non posso ancora rispondere. Vedi com'è basso qui il soffitto. Io l'avrei voluto più alto. È brutto, figliolo, è brutto. Io l'avrei voluto diverso. Guido, non potresti occupartene un po' tu? Disegnavi così bene. Io vorrei... Oh, il commendatore, ma come, si è disturbato. Buongiorno.
Riverisco, guardi che ha poco tempo. Ciao.
Come va? Come va questo figliuolo?
Non si lasci commuovere, stia attento.
Come? Non va? È stato triste accorgersi di avere tanto sbagliato.
Ma io?
La mamma ti ha preparato qualcosa da portarti appresso. Un po' di formaggio, due pesche.
Non darti pensiero per me. Certo, il posto è un po' solitario, però la mamma viene tutti i giorni. Mi fa compagnia, sai. Tiene sempre tutto in ordine.
Un po' di decoro ci vuole sempre. Siamo stati abituati così.
E con tua moglie? Va bene?
Sì, Luisa.
Voi siete stati la mia gioia.
Ciao, figliolo.
Ma che cos'è questo posto? Come ti trovi qui?
Non ho ancora capito bene, Guido. Ma va meglio. Va molto meglio. Nei primi tempi, vedi, figliuolo, nei primi tempi.
Dans ce livre, François Villargan, intitulé « Trois jours chez ma mère » et qui se relit aujourd'hui d'une traite tellement il est poignant, gai, jubilatoire, vous écrivez ceci à propos de cette scène du cimetière de 8 et demi que nous venons d'entendre, où Mastroianni voit son père lui apparaître. Vous dites qu'il constate tristement qu'ils se sont bien peu parlé. Et vous écrivez, il se pourrait bien qu'un jour, je regrette à mon tour, non pas d'avoir trop peu parlé à ma mère, puisque je lui téléphone presque chaque soir, mais de l'avoir trop peu vue, surtout depuis quelques années. Ma chère mère octogénaire est plus radicale que moi. Au téléphone, elle résume la situation. Finalement, je ne t'aurais pas beaucoup vue dans ma vie. C'était une phrase bien envoyée. Point d'exclamation. Et hop, vous débarquez chez votre mère.
Ah oui. Enfin, mon narrateur.
Votre personnage. Ben oui, mais c'est vachement dur de faire le partage entre qui est François Villargans, qui est ce personnage qui se met en scène dans certains de vos livres. Est-ce qu'il y a une porosité ou est-ce qu'il y a une feuille de papier? C'est le cas de le dire, sans faire de mauvais jeu de mots.
Bravo. Mais à votre avis?
Ben moi, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques qui sont un peu remixés.
Oui, c'est ça. C'est du remixage permanent.
Enfin, c'est à vous de me répondre.
Non, ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que ça m'intéresse.
Mais vous l'avez pas inventé, votre mère. C'est pas possible. Elle existe.
Non,
hein.
Non, mais j'ai une mère.
Mais elle est géniale, votre mère. Hein.
Oui, elle est très très bien. Il y a une phrase à la fin, parce que c'est la mère dans Trois jours, c'est ma mère, dont la mère fait une chute dans son jardin. C'est une femme assez très âgée même. Et donc elle reste 2 jours avec quand même une blessure à la jambe, quelque chose dont les médecins disent que parfois on n'en réchappe pas. Et alors, comme ma mère a vu quelque chose de similaire, qui s'est tombée, elle m'a dit, je crois que j'ai repris la phrase dans le livre, je me souviens plus, je crois, elle me dit, je ne t'ai peut-être pas donné une fin, mais je t'ai donné une chute.
Oui, vous le dites.
C'est assez fin.
Vous l'avez mis. Certifie.
D'ailleurs, si je me fais un jour un post-scriptum à ce 3 jours chez ma mère, quand j'ai été reçu à l'Académie française au mois de juin dernier.
Ah, c'est vrai que vous êtes académicien. Non, on se demande bien pourquoi vous avez accepté.
Je vais vous dire une des raisons, c'est pour avoir entendu la phrase prononcée par ma mère qui maintenant tout doucement a quand même 97 ans.
Et que vous allez toujours voir, peut-être pendant 5 jours et pas 3 là.
Oui, c'est ça, j'augmente un peu. Alors, elle était sous la coupole pour venir me voir dans mon beau costume brodé et dessiné par Agnès B.
Vous êtes devenu académicien pour votre maman.
Oui, alors elle dit la phrase suivante. Donc, il y a tout ça, une réception après, les tambours des gardes républicains, ce qui fait beaucoup d'effet. Ça fait un peu penser au tambour qu'il y a au tout début du procès de Jeanne d'Arc de Bresson. Et ma mère me dit, bien ça, je n'aurais pas voulu qu'on me le raconte. Je trouve ça assez fin.
Peut-être que c'est elle, l'écrivain, dans la famille.
Ce serait un bon titre pour des mémoires. Je n'aurais pas voulu qu'on me le raconte.
Bah oui.
Un petit sous-entendu. Un peu trop long pour moi, mais ça peut être. C'est pas mal comme titre.
Oui, mais vous pourrez l'écrire.
Oui, on verra.
Ce moment-là.
Ah oui, ça, oui, c'est bien. Un petit moment comme ça. Peut-être que je mettrai dans ma préface. Je compte faire une préface au discours que j'ai été appelé à prononcer en séance solennelle, qui est de Conti numéro 23.
Vous êtes content aujourd'hui d'être académicien? Vous ne le regrettez pas?
Non, pourquoi je regretterais? Je me souviens très bien, nous étions ensemble avec Maurice Béjart, vous et moi, dans une émission de télévision que vous animiez, et il venait d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts, et vous lui dites, parce qu'il avait son costume lui aussi, et vous lui dites pourquoi vous êtes élu à l'Académie des Beaux-Arts. Alors il répond, mais à cause du costume, depuis que je suis petit, j'aime beaucoup me déguiser. Après, vous aviez ri en disant, je ne sais pas ce que vos confrères vont en penser. Enfin bon, comme ça. C'est vrai que le déguisement, c'est bien. Et justement, on peut faire un enchaînement assez brillant à propos du déguisement pour revenir à la différence qu'il y a entre mes narrateurs et leur auteur.
Oui. Qui est déguisé? C'est l'auteur.
C'est l'auteur.
C'est jamais le narrateur.
Non.
Donc
non,
la
non,
vérité est dans la fiction.
Voilà. Voilà. Enfin, il faudrait peut-être nuancer, mais ça va dans ce sens quand même. C'est ce que nous pensons en général, nous. Bon, c'est très délicat comme thème, ça, la vérité et la fiction.
Oui, ça dépend.
La fiction permet de d'éclairer un peu la vérité comme une lampe de poche, comme ça, on peut dire.
Oui, mais on se demande pourquoi vous obstinez à écrire, parce que écrire quelquefois s'accompagne d'une véritable souffrance. Le terme est peut-être un peu trop fort, mais oui. Je dirais une angoisse quand même. Que vous décrivez d'ailleurs dans vos livres.
Oui, que vous mettez en scène. Que j'accommode dans mon livre comme un bon cuisinier qui rajoute des herbes aromatiques dans la casserole.
Alors je vais vous citer.
Oui, allez-y.
Là aussi, c'est dans 3 jours chez ma mère. Depuis plusieurs jours, il m'arrive d'oublier que je viens de poser un stylo, où je l'ai posé, une lettre, un livre, un médecin me dirait de ne pas m'inquiéter, le stress, la fatigue. Mais si c'était une porte entrouverte sur la démence, le dément se résigne à ses trous de mémoire, mais moi pas, c'est rassurant. Le dément ne s'indigne plus, ne s'insurge plus, j'en suis loin. Du côté de ma mère, il y a eu un matelot qui s'est mutiné en 1919 en refusant de tirer le canon contre la République ouvrière de Crimée. C'est toute l'histoire plus connue dans ma famille que dans les lycées des mutineries de la marine française en mer Noire. Et puis vous enchaînez, parce que vous parliez de l'écriture cinématographique et du montage au cinéma, mais vous le pratiquez aussi dans votre propre écriture. Et vous enchaînez en disant « À brûle pour point, pendant que nous laissions infuser notre thé, Delphine m'a dit « Il en est où ton roman ?» Certaines questions vous mettent au pied du mur. Elles peuvent être posées par le premier venu, quelqu'un qui s'assied aux côtés de vous dans un bar ou dans un avion, par un ami de longue date, par votre mère, par la femme avec qui vous vivez depuis plus de 30 ans. Il arrive aussi que ces questions, on se les pose à soi-même. Alors, il en est où, votre roman ?
Oui, c'est une thématique qui... Mais j'aime bien parler d'écrivain parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, je suis sûr de ne pas faire trop de fautes parce que souvent, quand je lis certains romans où il y a des métiers un peu abracadabrants, on voit que l'auteur ne connaît pas bien ce métier et que c'est fait au cinéma aussi.
Êtes-vous sûr que ça soit un métier ?
C'est une très bonne question parce que ce n'est hélas pas un métier. Parfois, j'aimerais avoir des horaires de bureau, comme un scénariste hollywoodien. De 9h à midi, on peut apprendre à remettre 10 pages. Et puis, il y avait un éditeur japonais qui m'avait proposé ça. Il y a au Japon une coutume qui s'appelle Kansume. Kansume, ça veut dire boîte de conserve.
Et alors, donc, vous voyez que vous connaissez bien le Japon, comme votre personnage.
Oui, je connais beaucoup mieux que lui. il faut toujours en savoir plus que ce qu'on dit, je trouve. C'est-à-dire que dans un livre, en tout cas, il faut en savoir beaucoup plus. Pas trop montrer qu'on en sait plus, mais ça vous rassure. C'est comme les voitures de course où on sait qu'on a, s'il le faut, on peut accélérer énormément. Et l'éditeur japonais qui enferme leurs auteurs dans un hôtel très chic à la campagne et qui viennent chaque lundi matin chercher la copie. C'est par contrat, les types, ils ne peuvent pas sortir de leur hôtel. Donc, boîte de conserve, Kansume. Et ça, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir beaucoup de livres.
Mais on m'a dit qu'à un moment, vous aviez cherché à avoir un bureau chez un éditeur, justement, pour pouvoir être certain d'écrire et de terminer des livres que vos éditeurs attendaient depuis des années et des années.
Dans le bureau, c'était le seul bureau que j'ai jamais eu, c'était Claude Berry qui m'avait proposé pour écrire un scénario. Mais un autre bureau qui me plaisait beaucoup, c'était le bureau de Claude Gallimard. Donc c'était dans la rue à l'époque encore Sébastien Botin.
Qui maintenant s'appelle Gallimard.
Gaston, oui. Là, c'était Claude. Et Claude, donc, il avait un très beau bureau, très haut de plafond, alors la peinture complètement écaillée, ça n'a pas été repeint depuis 1937, sans doute, et il en était très fier, et moi aussi, je trouvais ça, j'étais presque un peu fier pour lui, d'avoir un bureau un peu déglingué, comme ça, vouloir refaire la peinture. Et alors, on parlait de bureau, et je lui dis, vous quittez à quand votre bureau ? Il dit, je m'en vais vers 8h, 8h30. Je lui dis, donc, il est libre à 21h. Notre bureau. Alors je lui dis, on pourrait partager le bureau. Moi, j'arrive à 21h, je travaille la nuit, je pars vers 6h du matin, comme ça, je range un peu les affaires. Et alors, il n'a pas trop su si c'était du lard ou du cochon. Il m'a regardé un peu bouche bée, je dois dire, en disant, au fond, si je disais oui, peut-être qu'il me filerait son livre. Puis après, il dit, ça, il t'entend, comme si j'ai des insomnies, je redescends dans mon bureau, donc, vous voyez pas.
Il avait peur que vous n'occupiez le bureau jour et nuit.
Il était un peu déstabilisé, mais je m'entendais très bien avec lui. Par exemple, il m'invitait à déjeuner, alors j'arrivais pour déjeuner, donc à 13h, 13h10, et je commandais un cappuccino ou un café crème, parce que moi, je venais à peine de me réveiller. Et alors, lui, il trouvait ça très drôle.
Vous évoquiez tout à l'heure le souvenir de Maurice Béjart, dont vous étiez très très proche. Nous allons l'entendre, il va évoquer son rapport à la littérature. C'est une archive de À Voix Nue du 27 décembre 2000, un entretien avec Gérard Mannoni.
Mais la littérature, c'est à la fois des portes ouvertes. Bon, sans la littérature, j'aurais pas fait la moitié de mes ballets. Ne serait-ce que Roméo et Juliette. Il n'y a pas que moi qui ai fait Roméo et Juliette. Mais enfin, il y a une fraternité dans la lecture à laquelle je suis très sensible. Parce que tout d'un coup, l'auteur est là près de vous. Vous êtes seul avec lui. Il y a une complicité, une fraternité. Il y a un amour. Il y a une possession, peut-être, qui est très curieuse, mais quand je lis Molière est à moi. Vous lisez sûrement vous, il est à vous. Donc, les écrivains, ce sont les grandes prostituées, parce que ce sont des gens qui sont à tout le monde, à condition qu'on puisse donner la peine d'entrer en profondeur. Mais un écrivain, je crois que c'est j'avais pas pensé le mot avant, mais j'y pense maintenant, c'est vrai. Ce sont les grandes prostituées, au sens prostituées sacrées du mot, attention. Au sens religieux, comme en Inde, les prostituées sacrées s'appelaient les Devadasi. Elles habitaient dans le temple.
Ça, c'est un aspect assez méconnu de la personnalité de Maurice Béjart, effectivement, ce fou amoureux de la littérature.
C'est un très grand lecteur, mais comme il le dit, sans la littérature, il n'aurait pas fait la moitié de ses ballets, qui sont beaucoup des adaptations de... Il avait même fait, d'après un petit roman de Balzac que j'aime beaucoup, qui s'appelle Serafita, qui est très peu connu, il avait fait un ballet qui avait pas trop marché, mais je trouve très, très, très bien quand il dit « Quand je lis Molière est à moi », et sur la fraternité qu'il y a entre le lecteur. C'est un très bel éloge de la lecture que nous venons d'entendre. Ce côté un peu secret, comme un pas de deux. Ça se fait à deux, quoi, la lecture.
Vous avez fait un très beau documentaire sur lui. Comment l'avez-vous rencontré ?
Oh, il y a très longtemps, ça, j'étais élève à l'IDEC et je voulais faire un court-métrage parce que on nous disait qu'on apprenait le métier en faisant des courts-métrages, ce qui reste d'heures vraies, des documentaires plutôt. Et alors, on m'avait emmené voir Orphée, qui est un ballet de Béjart avant le Sac du Printemps, qui m'avait paru tout ce que j'avais envie de voir. C'était très moderne, il y avait de la musique de Pierre-Henri, c'était le thème d'Orphée, et avec Eurydice, un peu inspiré déjà de poèmes de Rainer Maria Rilke, les sonnets à Orphée. Et ça m'avait vraiment secoué, qu'avant j'avais 17, 18 ans, avant on m'avait montré un ballet en tutu, bon, c'est vrai qu'à 14 ans on s'ennuie si on vous montre Gisèle, surtout sans doute mal dansé. Bon, alors je m'étais dit, je vais faire un documentaire sur le monsieur qui a fait cet Orphée. D'autant plus que Eurydice était jouée par une très très jolie danseuse qui m'intéressait beaucoup. Donc c'était une façon aussi de l'approcher, j'ai fini par la filmer. Et voilà, c'est comme ça. Après, on est resté copains, puis on est un peu devenu amis, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Donc j'ai souvent assisté à des répétitions, mais à des créations. La répétition, c'est quand l'œuvre existe déjà, mais quand il crée, et de le voir inventer des pas l'un après l'autre, donc de faire bouger un bras, l'autre bras, les jambes, ça m'a beaucoup apporté, je crois, quand j'écris. Ça, et aussi la musique, les musiques non européennes. Oum Kalsoum, par exemple, il y a des changements de rythme incroyables. Sans compter toutes les musiques que j'aime le plus au monde, qui sont la musique traditionnelle ou classique, plutôt persane et indienne, où il y a des sens de rythme. Je parlais un jour avec un sage indien, musicien qui était un des grands joueurs de Vina, j'étais à Madras, et qui dit, toute la musique européenne, c'est que de la musique militaire. Même Mozart. Enfin, là, on n'est pas à France Musique, mais c'est quand même intéressant d'avoir un point de vue. Et c'est pas le même sens du temps. C'est tout ça. Hein.
Oui, mais en même temps, depuis le début de cette émission, vous dites, François Villergans, que vos deux sources d'inspiration, ce sont d'un côté la littérature, de l'autre le cinéma. Il y en a une troisième, c'est la musique.
Thank you.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez ce soir une émission d'hommage à François Weyerganz qui vient de disparaître. Nous avons décidé de rediffuser un entretien du 8 juin 2012. François Weyerganz était un grand mélomane, il a aussi écrit des textes magnifiques sur la musique. Il adorait Bach, que vous venez d'entendre, dans l'adagio de la sonate numéro 3, en mi majeur, BWV 1016. Salomé, c'est le titre de votre premier livre. Mais ce premier livre, il n'a été publié que très tardivement, en même temps que ce livre qui a obtenu le prix Goncourt, Trois jours avec ma mère. Et chez vous, il y a toujours une espèce de sédimentation des textes, y compris d'ailleurs dans le dernier livre, Royal Romance, qui vient d'être publié aux éditions Julliard. C'est-à-dire qu'on a l'impression que il y a peut-être chez vous, ou chez vos nombreuses copines, car vous avez manifestement beaucoup d'amoureuses, en tout cas s'il n'y a pas trop de décalage entre vos personnages de fiction et la réalité de votre existence, François Weyerganz, il y a peut-être des mâles et des mâles de livres qui n'ont pas encore été publiés, comme ce Salomé qui a attendu combien, 30 ans pour être publié.
Oui, c'est drôle parce qu'en réécoutant Salomé, bon, c'est attendre cette voix, parce qu'elle mieux à la fin est très violente, parce qu'à la fin, donc après qu'elle ait dansé, le tétraque l'a fait tuer. Enfin bref, on va pas raconter Salomé,
tout ça.
Oui, à la fin, elle est tuée. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est drôle, parce que Salomé était le premier personnage dont je me suis un peu inspiré quand j'avais 26-27 ans. Et Justine, l'héroïne de Royal Romance, tout à coup, me paraît une sorte de Salomé. Alors j'y pense à l'instant même, parce que vous me faites écouter la musique. Et que pareil, il y a une sorte de fin très violente aussi dans Royal Romance, que je préfère pas dévoiler, mais qui est quand même inattendue et forte. Et c'est une sorte de Salomé. C'est la clé de cette Justine, pour moi en tout cas. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir pensé ça.
Et comment l'avez-vous construite, élaborée, imaginée?
À partir de... Mais je voulais que ce soit quelqu'un de... Justine, je voulais qu'elle soit surprenante. Surtout qu'elle ait des réactions pas trop dans le rang. Et ça, donc je voulais quelqu'un qui soit toujours... Enfin, il faut qu'elle soit fascinante pour le garçon. Alors, le garçon, il est quand même assez fasciné par elle. Daniel, enfin mon personnage principal, qui est un romancier comme tant d'autres, de mes personnages en tout cas. Et Justine...
Justine, ça n'est pas loin, non?
Oui, mais ça, j'en parle.
Surtout
ça,
qu'elle s'est fouettée, hein.
Elle s'appelle pas Justine à cause de Sade, mais de façon beaucoup plus québécoise à cause de l'hôpital Sainte-Justine, parce que le catholicisme reste très présent là-bas.
Oui, car l'action se passe à Montréal. Et oui. Le narrateur s'y rend pour un salon du livre.
Oui. auquel je suis jamais allé, d'ailleurs. Tiens, je suis jamais allé.
Eh ben, vous feriez bien d'y aller parce que vous seriez célébré. C'est très sympa le salon du livre à Montréal.
Ah oui, sûrement.
Alors, faudrait parler de votre style, François Weyerganz. Justement, dans Royal Romance, je vais lire encore une fois un court extrait. Vous passez du coq à l'âne, vous passez des phrases longues aux phrases courtes, et vous aimez beaucoup l'énonciation des mots que nous apprécions aussi en tant que lecteurs. En voici un petit extrait. J'ai voulu faire connaître le Japon à Justine. Elle refusa catégoriquement que je l'invite. Je ne veux pas que tu payes pour moi. L'argent était là, nous n'avions qu'à le convertir en deux billets Montréal-Tokyo avec escale. Pour la rassurer, j'étais prêt à chercher une offre de dernière minute, des séjours à prix cassé. Elle en décida autrement. Adieu futon et tatami, ryokan, shinkansen. Justine préférait un lit king size aux reines Elisabeth. Elle préférait la cuisine italienne aux poissons crus, comme mes amis japonais eux-mêmes qui ne jurent que par les crostini, les gousses d'ail pilées, le vinaigre balsamique. Ils se damneraient pour une tranche de lard de colonnata fondant sur du pain grillé. C'est à Osaka qu'on me fit goûter pour la première fois ce lard très gras qui reste enfermé pendant des mois dans du marbre blanc de Carrare, frotté de sauge, d'ail et de romarin. Et je suis sûre que c'est vrai cette histoire de lard.
Il existe le lard. J'ai pas inventé le lard de colonnata.
Et vous en avez goûté?
Oui, j'en ai goûté, oui. Pour les besoins du livre.
Mais alors, pourquoi le conserver dans du marbre de Carrare?
Mais parce que c'est fait par les ouvriers de Carrare, qui partaient dans les mines, et les pauvres, ils n'avaient à leur disposition que du marbre de Carrare. Oui. C'est un peu le paradoxe. Parce que elles sont immenses, enfin, depuis, ça dure depuis 2-3 siècles, les mines de marbre, enfin,
de Carrare.
De Carrare, ouais. Et donc,
ceux mais qui pourquoi Osaka? Parce que Carrare, c'est en Italie.
Oui, mais non, parce que les Japonais sont fous de l'Italie. Alors, j'ai inventé que ça se passait à Osaka.
Vous avez tout vérifié, quand même. Rien n'est inventé.
Non. C'est sûr que, il faut avoir beaucoup de réel pour faire croire à tout le reste. C'est une des astuces qui font croire aux lecteurs, à certains lecteurs, que je suis autobiographique. C'est que comme tout est très précis, on pense que donc le reste aussi. Alors si vous campez bien ce que mangent les personnages, ou même vous donnez le nom d'un restaurant, un vrai restaurant, une vraie ville, on a tendance à penser, ça contamine un peu le reste. On pense que tout le reste est vrai aussi, ce qui permet donc de fantasmer.
Donc l'effet du surréel, de l'hyperréel.
Ouais, de l'hyperréel.
Qui va vers la fiction.
Ben oui, parce que c'est la fiction qui permet de dialoguer avec le lecteur ou la lectrice. Et puis surtout, comme c'est quand même un livre qui se veut, comment dire, qui sous des dehors assez drôle, c'est un livre que j'espère assez drôle, on parle toujours de Royal Romance, il y a aussi une certaine vision du monde. Ça, c'est des mots durs à prononcer, mais c'est pas que léger, c'est pas que désinvolte, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que mes personnages, quand on a lu tout le livre, si j'ai réussi, les gens qui m'ont lu se disent, tiens, ils ont trouvé la vie d'une façon un peu différente de ce qui a cours.
Mais c'est très drôle parce qu'en tout cas, moi, je l'ai lu deux fois. Une première fois, j'ai pas bien compris l'ossature, et puis une deuxième fois, effectivement, ça a été un régal. Donc, il faut peut-être lire vos livres plusieurs fois, je crois, François Vierganz.
Je ne sais pas quel est le grand auteur qui disait une phrase que il disait. C'est assez prétentieux. Elle n'est pas de moi, hein, mais comme je n'écris pas pour être lu, mais pour être relu. Donc moi, les textes que j'aime, je les relis. Mais ça dit, dans un premier temps, j'espère appâter, si vous voulez dire, le lecteur en étant très fluide. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand je relis ne fût-ce que les jeux d'épreuve, c'est que ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui vont vite, donc au moins on s'ennuie pas.
Non, puis c'est drôle. Mais alors bon, effectivement, encore une fois, quelle est la différence entre le narrateur, le personnage, l'autobiographe et l'écrivain, et où est FW? Ça, on peut toujours se poser la question.
Oui, je me demande quel intérêt ça a finalement.
Si, je vais vous dire. Un intérêt en tout cas majeur, parce que quand on vous lit depuis longtemps, on commence à comprendre de quel type d'attractivité sexuelle est doté le narrateur, le biographe, l'écrivain, peut-être un petit fragment de François Vierganz dans Trois jours chez ma mère, vous racontez à quel point vous n'avez pas pu faire l'amour dehors quand vous aviez 22 ou 23 ans. Dans Royal Romance, le personnage a des problèmes et il prend rendez-vous avec un psy pour un premier entretien motivationnel, c'est votre terme. Ce vocabulaire de clinicien a toujours fait ma joie, dit l'écrivain François Vierganz. Il me trouva, alors le me, je sais pas qui il désigne, il désigne votre personnage, il me trouva dépressif, c'était couru d'avance, pas au point cependant de subir une ECT, électroconvulsivothérapie, à côté de quoi les bêta-bloquants sont des barbes à papa. Donc ça aussi, on se dit que peut-être vous l'avez ressenti, que peut-être vous avez fait l'investigation, comme le Largras de Carrare.
Oui. Mais j'ai des amis psychiatres avec qui j'aime beaucoup parler, à qui je me confie peu, mais avec qui c'est très agréable de parler, qui me racontent des cas. Moi, j'observe, je prends des notes, je me souviens. Et après, je construis mes personnages. Les bêta-bloquants qui sont des barbes à papa, je trouvais ça drôle, ne fût-ce qu'au point de vue de sonorité. Donc, bêta-bloquant amène à barbes à papa, je trouve ça drôle, moi. C'est tout.
Et le style? Alors, et les troubles sexuels comme effet secondaire, point d'interrogation, charmante perspective, virgule, les troubles sexuels. En quittant le psy, j'ai plié dans mon portefeuille une ordonnance dont je ne me suis jamais servi. Il y a sans arrêt une alternance dans votre écriture, particulièrement dans le dernier où c'est encore plus monté peut-être justement comme au cinéma. Il est d'ailleurs beaucoup question non pas de cinéma mais de séries américaines que nous regardons tous, mais vous n'en avez pas honte. Et on a l'impression que le style effectivement est convulsif et qu'il va passer d'une vitesse à une autre.
Mais j'essaie de faire des retournements constants pour surprendre un peu comme les personnages peuvent surprendre. Je pense que c'est ça.
La surprise, l'étonnement.
Oui, de pas voyager en terrain plat.
Il y a aussi l'introspection, il y a aussi la méditation,
oui,
il y a aussi
beaucoup, ça,
la mise en abîme de l'écriture.
Oui, ça compte beaucoup ça, parce que à force ça de vouloir avoir l'air sympathique quand je parle de moi, j'oublie quand même de dire que c'est quand même des livres où il y a quand même de l'émotion et un certain sentiment sur la vie humaine, qui n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on aimerait penser.
Eh ben, l'émission est en train de se terminer, François Vergance. Vous ne voulez pas la terminer par une courte lecture de votre propre dernier texte?
Que vous m'imposez?
Ah non, vous choisissez.
Ah, au hasard, j'aime pas trop lire. J'aime mieux quand c'est écouté, quand on lit. Mais on entend dire, j'aime pas mes bonnes lunettes en plus. Non, mais c'est la jeune fille, Justine, donc qui envoie des mini-cassettes qu'il finira par décrypter à la fin de façon un peu
ne dites pas tout.
Obsessionnelle. Donc elle lui dit, bon, il est exactement 00:26 au Québec. Le téléphone n'a pas sonné, ce qui fait que je suis en deuil de téléphone. Je vais bientôt dormir, une fois de plus sans toi, j'ai l'habitude. Une dent du haut me fait mal, c'est peut-être une sinusite. Je devrais arrêter ce bavardage. Est-ce que je prendrai mes anti-inflammatoires avant de dormir? Pourquoi n'y a-t-il pas d'anti-inflammatoires pour la tristesse? Tout ce que nous faisons, c'est nous faire souffrir ou nous énerver. Qu'est-ce que nous savons faire de bien l'un pour l'autre?
Reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien? Comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil. Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler tantôt?
Et c'est avec cette chanson de Renan Luce intitulée « Au début » que nous allons nous quitter. Tous les livres de François Vergan sont disponibles en livre de poche et sont tous publiés aux éditions Grasset. Merci à toute l'équipe de L'Heure Bleue et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous, comme chaque lundi soir, avec Mishka Assayas pour le début de son Very, Very Good Trip.